Évangile de Luc, chapitre 17, verset 1er. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il ne scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Donc là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus qui est en train d'enseigner les disciples. Il y a tout un enseignement qui est résumé, bien sûr, sur le scandale, les scandales, et sur le pardon. Car la vie est faite, hélas, de beaucoup de scandales. Malheur aux hommes par qui ils arrivent. Et la vie est faite de difficultés réelles, relationnelles, ce qui fait qu'on a besoin d'être pardonné. Suite à cet enseignement, combien de temps ça a duré, on ne sait, mais ce texte nous montre que Jésus les enseignait comme il doit le faire encore aujourd'hui. Et regardez la réaction des apôtres, mes frères et sœurs. Les apôtres lui dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceint-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Regardons bien, mes frères et sœurs, ce que nous avons lu dans les Proverbes nous montre qu'un homme, s'il est vraiment sérieux avec Dieu, s'il a vraiment une vraie piété, si son cœur est ouvert, si ses oreilles spirituelles sont ouvertes, si vraiment il veut connaître Dieu. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Dieu. Nous en sommes profondément blessés. D'ailleurs, le texte qui nous prouve que Jésus a enseigné les apôtres, car est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de scandales? Il y a de plus en plus de scandales, il y a de plus en plus de gens qui sont dans l'amertume, dans la colère, ce qui nécessite que nous avons besoin d'être au clair sur le pardon, dont les apôtres ils sont là, ils sont touchés bien sûr. La preuve, c'est qu'après avoir entendu tout un enseignement sur les scandales et sur le pardon, ils font une prière ou une requête comme vous voudrez, et ils disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et c'est vrai que lorsque nous écoutons quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose qui est important, je peux vous dire qu'au niveau des scandales, on a, hélas, j'espère qu'on en voit de plus en plus, et de personnes de plus en plus conflictuelles, vous ne trouvez pas que les gens sont de plus en plus dans le conflit? Donc il y aura besoin vraiment d'apprendre à pardonner, c'est quelque chose d'important. Les apôtres intelligents quand même sont touchés et disent au Seigneur, mais augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, d'autant plus que c'est sérieux, que les justes, les chrétiens, ils vivent par la foi. C'est écrit, le juste vivra par sa foi, il vous sera fait selon votre foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la foi. Ils croient en Dieu, mais ils n'ont aucune confiance en Dieu. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas été sérieux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, et qui aggrave les scandales, et qui aggrave la rancune et l'amertume. Parce qu'ils ne sont pas sérieux, ils n'écoutent pas. Vous relirez le Proverbe chapitre 2 et vous verrez combien Dieu dit, mais si tu écoutes, si tu reçois, si tu es attentif, tu comprendras. Moi je vous assure, je suis des chrétiens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, ils n'y comprennent rien, rien. Ils sont tout le temps dans le doute, tout le temps dans la peur du lendemain. Ils n'ont jamais écouté un enseignement, ce qu'il fallait retenir de cet enseignement. Parce que quand même, c'est intéressant d'avoir une foi vivante. Vous croyez que la foi, elle fait mouvoir le bras de Dieu? Vous le croyez que Dieu agit encore? Que le Seigneur bénit, que le Seigneur guérit, etc. Il y a besoin d'avoir une vraie foi. C'est important que l'assemblée dans laquelle Dieu nous a placés soit remplie de foi. Ben oui, c'est ce que Dieu veut. Il nous a donné une mesure de foi à chacun, et cette foi doit se développer. Pourquoi Paul et Silas chantaient et priaient lorsqu'ils avaient été tabassés et attachés dans une prison intérieure? Pourquoi ils priaient et chantaient? Franchement, parce qu'ils savaient que Dieu pouvait intervenir. Vous le croyez que Dieu peut intervenir dans vos luttes et vos combats? Ils chantaient. Et quand vous lisez vraiment ces histoires, ces hommes savaient que Dieu peut intervenir. Dieu peut intervenir. Et regardez la page de Luc 17, mais quand ils en reparlent peu de temps après, ils sont à l'église, il écrit à l'église de Thessalonique. Regardez, ça vaut quand même la peine de le lire. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Regardez comment il parle de cette expérience qu'il a faite lorsqu'il était à Philippe, dans la prison. C'est vraiment, vraiment intéressant. Regardez ce qu'il dit. Comment vous parlez-vous de vos épreuves? Des épreuves que vous avez traversées? C'était quand même, ils avaient été jetés en prison, tabassés, je ne sais pas si vous vous rendez compte, jetés comme des vauriens, blessés, dans le noir complet. Regardez ce qu'il dit, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1er. « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu. » Moi, je trouve qu'ils en avaient déjà pas mal, mais enfin bon. « Nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Il y a des combats, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors que moi je trouve qu'ils avaient déjà, fait des progrès, et bien ils en font encore plus. Leur foi a augmenté, pourquoi? Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. On aura des tribulations. C'est quelqu'un qui c'est qui a dit vous aurez des tribulations? Mais prenez courage, on aura des épreuves, des mauvais jours. Est-ce que la Bible parle des mauvais jours? Oui, la Bible parle des mauvais jours, des souffrances, des temps difficiles. Mais aussi, après, il y a des temps de paix. Jonathan présentait les chants et rappelait ce verset que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a les deux. Et il faut apprendre dans les deux. De toute façon, c'est un principe. Ou notre foi augmente, ou notre foi diminue, à tel point qu'il est dit que les gens abandonneront la foi, parce qu'en fin de compte, ils ne l'ont jamais eu. Parce que pour abandonner la foi, il ne faut pas avoir eu grand-chose. Ou pas s'en servir beaucoup. Ou on accepte de surmonter le mal par le bien, comme Paul et Silas l'ont fait. Ils connaissaient Dieu. Et comme ils avaient appris à connaître Dieu, eh bien, ils s'attendaient à lui. Je ne sais pas si vous vous attendez à lui dans les situations que vous traversez. Ou alors, on refuse et on s'écroule et on devient pénible. On s'apitoie, on est négatif, on est découragé, on est dans la défaite. Quel témoignage nous rendons alors aux autres frères et sœurs? Est-ce que c'est important pour vous de rendre un bon témoignage aux frères et aux sœurs? Oui ou non? Et il y a des chrétiens qui rendent de mauvais témoignages. C'est tous les bénéfices qu'ils ont donnés de leur vie. Alors, regardons bien cette affaire. On a lu dans les Proverbes qu'il y a une façon de réfléchir, d'écouter, de comprendre, d'analyser. Et la connaissance de Dieu viendra dans notre cœur. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus enseigne sur les scandales et sur le pardon. Ils sont touchés, bien sûr, ils savent bien que ça ne va pas être facile. Donc, Seigneur, augmente-nous la foi. Et qu'est-ce que Jésus dit? Eh bien, venez, je vais prier pour vous et je vais vous imposer les mains et votre foi va grandir. Non, Jésus va leur enseigner plusieurs choses. La première, la loi de la semence. Et puis une parabole sur un serviteur qui fait son boulot, qui laboure les champs, qui paie les troupeaux, qui revient, qui fait à manger. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Donc Jésus parle de semence, d'obéissance et d'humilité. Retenez bien ces choses, mes frères et sœurs. Vous avez lu les proverbes, il faudrait y revenir, le temps nous manque, mais il faudrait presque le relire, le proverbe 2, pour que nous comprenions maintenant ce que Dieu veut que nous recevions. Pour que notre foi grandisse, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut que sa foi grandisse? Si nous voulons que notre foi grandisse parce qu'il y aura des scandales, je parle de ça parce que c'était l'enseignement, mais Mes frères et sœurs, il faudra peut-être revenir au proverbe 2, nous mettre à genoux et dire « Seigneur Jésus, il faut absolument que je comprenne ce que tu dis. » Les gens, ils ont lu l'évangile de Luc 50 fois, vous allez voir qu'on peut lire les choses et n'avoir rien compris du tout. La première chose donc, pour que la foi grandisse, c'est un rappel sur la loi de la semence et de la moisson. N'oubliez pas que ce qui est important, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de la foi. Le Seigneur, il n'a pas dit, voilà, mais je vais vous donner le don de foi. Demandez le don de foi. Non. Jésus dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé. Au départ, la foi nous est donnée. Est-ce que nous avons tous reçu une mesure de foi? C'est écrit? Oui. C'est écrit, mais bien sûr. Il va de soi que le Seigneur ne nous demanderait pas de manifester la foi s'il ne nous avait pas donné à chacun une mesure de foi. Cette foi, c'est comme une semence, une toute petite graine, et il faut la faire développer. Cette foi doit grandir. J'ai pris le témoignage de Paul, qui pourtant avait de l'assurance, et qu'est-ce qu'il dit ? Plus tard, quelques mois plus tard, nous avons pris de l'assurance. Bon, pourtant, moi, je trouve qu'ils en avaient pas mal. Donc, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de la foi qui est importante. Oui, nous avons tous reçu une mesure de foi. Alors Jésus, comprenez bien mes frères et sœurs, parce que je suis persuadé que nous sommes loin de soupçonner combien nous pourrions faire des progrès si nous comprenons ce qui va suivre. Est-ce que nous réalisons ce texte? Le Seigneur va les amener à prendre conscience de leur responsabilité. Quand on est chrétien, on a une responsabilité, on a un immense plaisir d'être enfant de Dieu, mais on a une responsabilité d'avoir une foi, et une foi qui lui soit agréable. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on relit le texte, s'il vous plaît. Regardez bien, on est dans un contexte d'enseignement, les apôtres sont touchés, augmente-nous la foi. Jésus leur parle au verset 6 de la semence, et au verset 7, 8, 9 et 10, d'une responsabilité, c'est-à-dire un serviteur, verset 7, qui laboure ou autre chose, vous voyez, ou qui paie les troupeaux et qui revient des champs. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit préparer à manger et servir son maître. Et tout ça, vous avez vu, dans une humilité, le verset 10, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, nous sommes des serviteurs inutiles. Donc, écoutez bien mes frères et sœurs, parce que moi je suis persuadé qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'illusion totale. Ils vont à des séminaires, oh, c'est quoi le titre du séminaire? Le don de foi. J'y vais à ce séminaire, c'est où au Canada? J'y vais. Là il n'y a pas d'argent, mais c'est bizarre comment on trouve 800 euros pour se payer le voyage au Canada et entendre des choses qui correspondent à rien. Écoutez bien, je suis archi sérieux. Parce qu'en fin de compte, si nous voulons que notre foi augmente, il faut comprendre cet enseignement. Il y a tout un enseignement sur la semence. C'est clair que c'est la parole de Dieu qui produira la foi. Ce n'est même pas la peine de prendre les textes, vous les connaissez suffisamment. Mais après, Dieu compare le chrétien à quelqu'un qui travaille, un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux. Et après la journée de travail passée dans les champs, il rentre à la ferme et il faut qu'il prépare le repas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur est en train de les amener sur le terrain de l'obéissance. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Il est hors de question que notre foi augmente si nous n'avons pas appris ce qu'est l'obéissance. Et vous pouvez le lire tant de fois que vous voudrez, vous verrez, et ça développera en vous une pleine conviction que Dieu fera que notre foi augmente si elle est basée sur la semence de la parole et puis après sur cette bénédiction d'une véritable obéissance. Un serviteur qui obéit à son maître. Il faut comprendre, mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai lu le Proverbe, chapitre 2. Les gens, ils lisent la Bible, mais ils ne méditent pas. Ils devraient s'arrêter. Tiens, qu'est-ce qui est dit autour de cette parole? Augmente-nous la foi. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais on peut le faire chacun chez nous. Vous vous rendez compte, au verset 5 du chapitre 2 des Proverbes, il dit, alors tu comprendras. Tu comprendras la crainte de l'Éternel. Combien de chrétiens n'ont aucun respect de Dieu? Oui, est-ce que j'exagère? Et ils ne comprennent pas. Alors tu connaîtras Dieu. Ça vous intéresse de connaître davantage le Seigneur? Et il faut passer par ces choses. Tu comprendras. Vous connaissez la parabole du semeur. Il écoute la parole et il ne la comprend pas. Vous connaissez ce texte? Si, vous pourrez le vérifier dans Matthieu 13. Luc 13, 19, il écoute la parole et ne la comprend pas. Verset 14, vous entendez et vous ne comprenez pas. Ils ont des oreilles et ils ont endurci leurs oreilles. Ils ne comprennent pas. On le voit souvent, ça. Ils entendent. Bon, lisez les prophètes, même les pasteurs, les sacrificateurs. Dieu leur fait des reproches terribles. Ils n'écoutent rien. Et pourtant, ils prêchent. Ils prêchent bien, peut-être même. Et au verset 23, il est parlé d'un homme qui entend la parole et qui la comprend. Qu'il en soit ainsi ce soir. Que nous puissions entendre. Il dit, mais Seigneur, je veux entendre. On a chanté un très beau cantique, le dernier, à savoir d'écouter. Comment c'est les paroles? J'écouterai. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de sérieux pour vous? Est-ce que je veux comprendre? Vous rappelez quand Philippe a interpellé le ministre éthiopien et il lui a posé la question, mais comprends-tu ce que tu lis? Et c'était le ministre des Finances, c'était pas n'importe qui. Et cet homme, il aurait pu dire, attends, mais de quoi je me mêle? Je suis le ministre, tu sais pas qui je suis? Et il a dit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? L'humilité est tout le temps liée à la bénédiction. Ce ministre a accepté le petit secours d'un simple évangéliste qui était là sur le chemin. Et mes frères et sœurs, est-ce que nous comprenons ce que nous lisons? Nous qui sommes venus ce soir, ça serait dommage de repartir comme on est rentré. Je vous dis, moi, écoutez, ça me fait mal au cœur de le dire. Il y a des chrétiens, ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils sont convertis. Ils sont toujours au même point. Ils ont besoin de lait. C'est dommage. Alors qu'on a suffisamment d'enseignements dans la parole pour faire de véritables progrès. Quand Paul dit, mais fléchissez le genou afin que vous puissiez comprendre. Ailleurs, il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous savez, il y a plein de gens qui font des œuvres pour Dieu. Et regardez avec moi, gardez la page. C'est un verset qui m'est venu ce matin à l'esprit quand je préparais, dans Osée. Osée, c'est après les grands prophètes, vous savez, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée. C'est pour vous aider à trouver, parce que je sais que les petits prophètes, j'entends des fois les pages qui tournent longtemps. Dans prophète Osée, au chapitre 5, regardez, c'est un chapitre extrêmement important, même s'il y a une invitation à la fin. Il y a un comportement archi grave qui empêche les gens de revenir à Dieu. C'est un verset, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, il faudrait que vous lisiez tout le chapitre en vérité pour comprendre. Mais je vous donne soif en lisant le verset 4 du chapitre 5. Regardez bien, c'est archi sévère. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Alors, ce n'est pas que la prostitution morale, il peut y avoir la prostitution spirituelle, un mélange total d'adultère par rapport à des choses religieuses. Parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel, c'est tout le temps le même topo. Ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Judas. Regardez bien, ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront pas. Il s'est retiré du milieu d'eux, ils ont été infidèles. Mes frères et sœurs, c'est peut-être un peu compliqué pour certains, mais ça veut dire qu'on peut aller à l'église, on peut offrir des sacrifices, on peut faire plein de choses et ne pas obéir. Et l'enseignement de Jésus, donc, c'est clair, c'est... Vous voulez que votre foi augmente, et c'est bien, le Seigneur ne dit pas, mais de quoi vous me demandez? On voit bien que le Seigneur est d'accord avec cette requête, il y a plein de prières sur lesquelles Dieu est d'accord. Mais s'il est d'accord, il faut voir ce qu'il enseigne par rapport à cette affaire. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Vous voulez que votre foi augmente? Oui ou non? Vous voulez que votre foi augmente? Nous voulons que notre foi augmente. Alors qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Beaucoup, je vous assure, beaucoup de chrétiens acceptent une prédication comme celle-ci. Si vous êtes passé par la croix, par la repentance, et que vous écoutiez cette prédication, vous pouvez dire de toute façon, tout ce qui est dit, c'est biblique. Mais ce n'est pas pour ça que notre foi augmentera. Ce n'est pas parce que j'accepte le message, parce que le message est biblique, que ma foi va augmenter. Beaucoup de chrétiens acceptent un message parce qu'il est biblique, mais en fin de compte, n'y obéissent pas. Ils sont toujours rebelles. Alors si en plus de cette désobéissance, un peu de paresse, comme on l'a vu samedi, un peu de légèreté, un peu de désinvolture, etc., etc., vous savez, les soucis et surtout le manque de soif, eh bien ça suffit pour que ma foi n'augmente pas. Donc, Jésus, regardez bien, vous l'avez lu, on pourrait le relire, mais vous le relirez, Jésus est en train de leur enseigner l'obéissance et l'humilité. C'est important, vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, notre foi grandit au fur et à mesure que nous obéissons à la parole. L'obéissance, vous connaissez ce verset, vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers, donc pour nous que la louange. Vous savez, pour beaucoup de chrétiens, la louange, ils ont l'impression que la louange fait tout. Ce n'est pas vrai. C'est l'obéissance à la parole. On peut louer sans obéir, on peut servir sans obéir, on peut prêcher sans obéir, etc., etc. L'obéissance, car la résistance est aussi coupable que la divination. Vous seriez peiné si vous saviez qu'un chrétien regarde de la magie à la télévision, qu'un chrétien se prosterne devant une idole. Et bien pourtant, quand on résiste à Dieu, c'est aussi coupable parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Donc, soyons sérieux. Regardez le verset 10. On revient sur le verset 10. Car c'est quand même un verset qui nous parle de cette foi qui grandit. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. Donc, qu'est-ce que Dieu demande? Dieu répond à cette requête. Il dit pas, mais vous demandez n'importe quoi. Dieu est d'accord. C'est sûr que Dieu veut que notre foi grandisse. Paul et Silas l'avaient compris bien avant nous. Donc, Jésus enseigne et il donne la réponse. Et nous aussi, nous avons fait tout ce qui nous a été ordonné. Et il ajoute, nous sommes des serviteurs inutiles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a une immense grâce. Je fais tout ce que Dieu me demande, pas une partie. Beaucoup de chrétiens s'imaginent qu'ils obéissent à Dieu, par exemple, parce qu'ils vont à l'église le dimanche, parce qu'ils lisent la Bible le matin. Non, c'est pas ça. La foi grandit quand on fait tout ce que Dieu nous demande, tout le long de la journée. Même si je suis au travail, même si je suis à la maison, même si je suis à la faculté, ou à l'usine, ou dans mon bureau, dans n'importe quel cas de figure, ma foi ne peut augmenter si j'obéis tout le long de la journée, de la soirée. Et la religion, c'est ça. Si je vais à l'église, j'écoute un bon sermon, ou moins bon, enfin, je fais quelque chose, je suis responsable à l'école du dimanche, voilà, Dieu doit être avec moi. Non, 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 la foi n'augmente pas parce qu'on fait les choses n'importe comment. On fait ce que le Seigneur nous demande, on fait tout ce que le Seigneur nous demande. Et l'obéissance, ce n'est pas une obéissance légaliste. Ah, il faut faire ça, bon, ben je le fais. Ben je le fais parce qu'il faut obéir. Ce n'est pas la peine. L'obéissance, c'est une obéissance de cœur. Paul dit aux Romains, vous avez obéi de cœur. Quand on fait quelque chose, on le fait de tout son cœur. Si le Seigneur nous demande quelque chose, c'est une bénédiction. Je me souviens des premières réflexions qu'on m'a faites quand je me suis converti. On m'a dit, mais alors tu es chrétien, tu ne peux plus mentir? J'ai dit, si je peux, mais je ne mentirai pas. C'est un choix, c'est une joie de marcher dans la vérité. C'est écrit dans la Bible que c'est une joie pour Dieu que nous marchions dans la vérité. C'est une joie, si c'est sûr, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, c'est que vous avez un problème de relation avec le Seigneur. Vous savez, une véritable obéissance entière plaît à Dieu. Et une humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Nous avons fait tout ce que nous avions à faire, nous sommes des serviteurs inutiles. Beaucoup de chrétiens vivent dans l'illusion, mais c'est grave ce que je vous dis. Beaucoup de chrétiens se trompent par de faux raisonnements. Nous avons eu un don dimanche matin qui rappelait cette difficulté dans les églises. Tu te trompes par de faux raisonnements. Et il y a plein de chrétiens qui sont tout le temps en train de vivre dans l'illusion. Quand ça ira mieux, je servirai le Seigneur. Quand j'aurai fini mes études, combien de fois j'entends ça? Quand j'aurai fini mes études, et souvent les gens ils ont rétrogradé avant que leur diplôme soit dans la poche. Quand j'aurai un travail fixe. Non, maintenant, je n'ai pas de travail, donc je suis en train de chercher du boulot. Donc, quand j'aurai un travail, je vous assure, je serai fidèle avec le Seigneur. Quand je serai marié, oh, monsieur Gaud, je serai un homme, un chrétien fidèle. Je ne sais pas s'il faut rire ou quoi. Quand j'aurai plus de problèmes. Par contre, là, alors là, vous risquez d'attendre longtemps. Quand j'aurai une bonne église, il y a des gens qui sont obsédés par la bonne église. Mais vous savez, Dieu peut nous placer dans une église où ce n'est pas toujours peut-être évident que nous soyons utiles, mes frères et sœurs. Là où Dieu nous a placés. Quand mon conjoint se convertira. Combien de fois j'ai entendu? Et le problème souvent, c'est que c'est le conjoint inconverti qui a attiré le conjoint chrétien loin du Seigneur. Quand je serai à la retraite. Enfin, la liste, elle est interminable. Mes frères et sœurs, ne vivons pas dans l'illusion. Nous voulons que notre foi augmente. Ayons une obéissance. Tu me demandes de faire ça? Je le fais. Tu m'as donné cette place dans l'église? Je m'y attelle. Et je m'y attelle avec joie, une obéissance joyeuse. Est-ce que c'est une grâce de servir le Seigneur? Si c'est une corvée, moi je vous recommande d'aller au calvaire, d'aller à la croix et de lui demander pardon. Je ne sais pas où vous en êtes. Mais si c'est une corvée, de faire chanter, de faire l'école du dimanche, je ne sais rien. Mais demandez pardon à Dieu. Demandez-lui pardon, il vous aidera. C'est comme si Jésus disait, en obéissant, en obéissant jusqu'à la fin, en obéissant et en vivant les choses dans l'humilité, votre foi augmentera. C'est exactement le résumé de ce qu'on vient de lire. Oui, Dieu bénit les gens qui le cherchent. Dieu bénit les gens qui veulent comprendre. Vous savez, beaucoup de gens demandent le don de foi. Est-ce qu'il est parlé du don de foi? Oui. Mais franchement, soyons intelligents. Comment Dieu pourrait-il nous faire ce don de foi si nous ne commençons pas par avoir une foi saine? Une foi véritable, une foi simple. Vous vous rappelez l'histoire de cet officier romain, c'était un capitaine de l'armée romaine, à qui Jésus a dit qu'il avait une grande foi. Vous vous rappelez, les pasteurs étaient furieux. Et cet homme, il va dire à Jésus, il va faire dire, parce qu'il ne va même pas y aller. Moi qui suis soumis à des supérieurs, écoutez bien, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, et il va. Je dis à l'autre viens, et il vient. Et cet homme avait reçu, mandaté par Rome, son poste de capitaine, d'officier. Il avait des commandants au-dessus de lui, à qui il obéissait. Donc, ses soldats lui obéissaient parce qu'il était soumis. Et parce qu'il était soumis, il avait une véritable autorité. Et cet homme, tout païen qu'il soit, avait compris qu'on ne peut confier de l'autorité qu'à ceux qui vivent dans l'obéissance. Est-ce qu'il faut le répéter? Mes frères et sœurs, Dieu ne donne de l'autorité qu'à ceux qui vivent dans l'obéissance. Et c'est ce que Jésus est en train d'enseigner. Et aujourd'hui, on est là dans les églises, on dit, allez, il faut avoir une grande foi, prier pour avoir une grande foi. Non! Demandons à Dieu de l'obéissance et de l'humilité. Jésus a été exaucé dans tout ce qu'il a demandé. Mais vous pouvez regarder, Jésus a toujours été soumis au Père. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Jésus s'appelait tout le temps le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Il s'est fait homme. Il aurait pu dire, franchement, attendez, je suis Fils de l'homme, d'accord, mais ça, n'oubliez pas que je suis le Fils de Dieu. Est-ce qu'il n'aurait pas pu prendre l'initiative de faire des choses de lui-même? Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Jésus a eu l'autorité qu'il a eue, que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce qu'il était entièrement soumis au Père. Et nous devrions vraiment réfléchir à ces histoires quand nous voyons des questions, des remarques, des requêtes, comme celle que nous venons de lire, augmente-nous la foi. Je peux vous dire que ça vaut la peine de s'arrêter sur l'enseignement. plutôt que de courir et de demander à Dieu un don. Mais vous savez, si Dieu veut vous donner un don, toute grâce excellente et tout don parfait descendent de Dieu. C'est Dieu qui... On peut le demander, mais je pense que ça ne sert à rien de le demander si on vit dans l'obéissance, la désobéissance et l'orgueil. Parce que qu'est-ce que Dieu fait avec les orgueilleux? Il leur résiste. Alors on va tourner en rond pendant longtemps. Donc Seigneur, apprends-moi à obéir. Le Saint-Esprit, il est donné à qui? À ceux qui... Et regardez pour terminer, parce que quand même, c'était sur mon cœur quand je préparais cette étude, dans le livre de la Genèse. Vous savez, Dieu demande quelque chose à Abraham. Dieu demande quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Le lendemain, il va le faire. Et regardez, on va voir la conclusion. Regardez-le bien, vraiment, mes frères et sœurs. Pourquoi cet homme va être béni? Genèse 22, versets 15 à 18. Vous savez, ça fait partie de ces lectures sur lesquelles on devrait vraiment réfléchir. Regardez s'il est beau ce texte. Genèse 22, Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé. Il a obéi. C'était une grosse épreuve. Ça ne fait rien. Dans l'épreuve, il obéit. Regardez la conclusion. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu as obéi. Donc si vous synthétisez le verset, je te bénirai parce que tu as obéi. Alléluia. Mes frères et sœurs, la foi, elle grandit de cette façon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Est-ce que c'est important pour vous de savoir ce que vous devez faire? C'est important pour vous? Il y a des chrétiens ici. Alors moi, je veux pas ternir le tableau. Mais mes frères et sœurs, quand on se tient devant Dieu, on a à cœur certaines choses. Oui ou non? On a à cœur. Peut-être de prier. Peut-être de téléphoner à une mémé qui ne peut plus venir. Mais si vous ne faites rien, moi je vous dis, arrêtez de demander le don de foi, vous priez pour rien. Mais laissez-moi vous dire que si avec humilité et confiance, dans les problèmes que nous rencontrerons de scandale, d'amertume, de ressentiment et autres, qui feront que s'amplifier, puisque la Bible dit, Jésus a dit, qu'à cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Mais écoutez, moi j'ai envie de dire, je ne sais pas si ce que je veux dire est intelligent, mais c'est vrai, c'est leur problème. Qu'importe les autres, moi, nous, on va suivre le Seigneur. Mais devant ce méandre d'apostasie, de scandale et tout, choisissons d'être humbles. Seigneur, tu l'as dit, eh bien je le fais, je le crois. Tu me demandes de faire ça dans ta maison, eh bien je le fais. Et je le fais de bon cœur. Pas le matin, pas à l'église, à la maison et partout. Et je glorifierai Dieu et c'est sûr. Votre foi augmentera. Alléluia. On lui demande de l'aide? Est-ce que vous croyez que ce sont des prières que Dieu exauce? L'humilité, vous savez le titre de la prédication, c'est pas compliqué. Ouais. Des fois je cherche. L'humilité plus l'obéissance égale une foi qui grandit. Alléluia. Vous voyez que je suis bon. Hein. Demandons au Seigneur sa grâce. Notre Père, nous te bénissons pour ta parole. Oui, nous voulons écouter, nous voulons comprendre la crainte de l'Éternel. Nous voulons connaître davantage ton nom, ta vie. Nous croyons, oui, que tu veux que la foi augmente dans le cœur de tous les chrétiens. Nous te prions, Seigneur, pour qu'au milieu de nous, il n'y ait pas de rebelles, d'orgueil, qu'il n'y ait pas dans nos vies des casseroles que nous traînons d'amertume par rapport au scandale. Nous voulons marcher dans l'obéissance, dans l'humilité. Nous voulons croire, oui, que la semence de ta parole suffit pour amener la bénédiction au travers de chacun de nous. Si tu as dit à Abraham que tu le bénirais parce qu'il avait obéi, je sais que tu diras la même chose à n'importe qui obéira à ta parole. Seigneur, nous voulons avoir cette obéissance de cœur, cette obéissance joyeuse et avoir simplement ce bonheur d'avoir pu faire ce que tu nous bandais de faire en toute humilité. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.